C'était l'an dernier devant les bureaux de la CFDT, boulevard de Belleville, une manifestation des précaires et de chômeurs. Et là, on entendait une militante d'Assé. C'est quelques échos de manifestation pour lancer le dossier d'aujourd'hui, puisqu'on reçoit Lilian Mathieu à propos de la parution de son livre « Comment lutter ?»« Sociologie et mouvements sociaux ». C'est publié aux éditions textuelles. Cédric, peut-être peux-tu nous dire quelques mots sur cet ouvrage.
Oui, tout d'abord, juste deux, trois précisions. Donc, simplement pour dire que Lilian Mathieu est donc chercheur en sociologie à l'Université Paris 1, qu'il a travaillé auparavant sur les mobilisations liées à la prostitution. Donc, on peut lire son livre Mobilisation de prostituées chez Belin, publié en 2001. Donc aujourd'hui, si on a voulu inviter Lilian Mathieu, c'est parce qu'il parle des mouvements dont on parle beaucoup dans cette émission, qu'on a pu suivre chacun ou l'un et l'autre pour les différents mouvements. Et donc la première question qu'on a envie de poser aujourd'hui à Lilian Mathieu, c'est donc pourquoi ce livre et à qui s'adresse-t-il et pourquoi pas de tel livre auparavant. Donc en gros, quelle a été la démarche que tu as menée pour rédiger ce bouquin?
Oui, alors un du livre, c'était de rendre accessible à tout un tas de gens qui sont pas des universitaires, mais qui sont des militants, un certain nombre de connaissances qui ont été produites par les sociologues qui ont travaillé sur différents mouvements sociaux. C'est-à-dire que la sociologie des mouvements sociaux, c'est un domaine des sciences sociales qui a connu un très fort développement ces dernières années. Un très fort développement à la mesure de l'émergence de nouvelles mobilisations, mais toutes ces connaissances produites par les sociologues restaient en quelque sorte enfermées dans les bibliothèques universitaires, dans les revues de sociologie ou de sciences politiques. Mais il n'y avait pas de réciprocité, en quelque sorte. Les sociologues étudiaient les mouvements sociaux, construisaient leur carrière pour certains à partir de ça, mais il n'y avait pas d'effet de retour, c'est-à-dire que les militants eux-mêmes ne pouvaient pas, ou difficilement, ou ça exigeait un investissement de lecture important et pas toujours facile, ne pouvaient pas bénéficier de ces connaissances. Et je pense que ces connaissances sociologiques peuvent être utiles à la conduite des mouvements sociaux contemporains. Donc voilà, j'ai essayé de... En essayant, je ne sais pas si j'y suis toujours arrivé, d'être relativement pédagogique et clair, de réintroduire un peu de réciprocité dans les relations entre les militants et les chercheurs en sciences sociales.
Oui, c'est intéressant justement, parce que moi, en lisant le livre, j'étais étonné qu'on dise autant, parce qu'on est tous ici militants dans diverses organisations, et on était étonné, moi j'étais étonné de voir qu'on disait autant de choses sur nous, quoi, qu'il y avait eu autant de choses produites. Et sur les études qui sont menées, justement, moi c'est quelque chose qui m'a marqué, entre autres, autour des McDo. Il y avait un nombre de chercheurs, de sociologues, si on ajoute à ça ceux qui réalisaient des documentaires, ça représentait, il y avait parfois plus de gens qui venaient observer ce qui se passait que de gens qui venaient soutenir les grévistes. On voit qu'il y a une présence, alors je ne sais pas...
On va dire que ça, on peut le rattacher à ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est un domaine de recherche qui est en pleine extension. Alors depuis plus longtemps aux États-Unis, mais ces dernières années, justement par l'importation de modèles théoriques qui ont été forgés essentiellement aux États-Unis, en France, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui commencent des thèses sur les différents mouvements sociaux. Et quand il y en a un qui émerge, qui acquiert un peu de visibilité, puis c'est vrai que bon, bah tu prends l'exemple des luttes des McDo, c'est quelque chose d'assez emblématique de tout un tas de phénomènes sociaux plus généraux, que ce soit la précarité du salariat croissante, que ça soit aussi, on peut le connecter avec les questions, McDo a été une cible de différents mouvements sociaux, que ce soit bon le démontage du McDo de Millau, c'est devenu une cible emblématique du mouvement altermondialisation. Donc effectivement, dès qu'il y a une nouvelle mobilisation qui apparaît, qui se distingue par des traits originaux, il y a immédiatement de la curiosité de sociologues qui se focalisent dessus. Alors, parfois au détriment d'autres mouvements sociaux. C'est-à-dire que, et c'est un reproche qu'on peut faire à mon bouquin, mais c'est aussi un témoignage de l'état de la recherche sociologique, des luttes plus traditionnelles comme celle du monde du travail, que ce soit l'élu, que ce soit des vous, tout un tas de luttes, de mobilisations très importantes qui ont été menées dans le monde du travail, ne suscitent pas la même curiosité, ce qui est... En termes politiques, en termes d'articulation de la recherche sociologique et de l'engagement politique, quelque chose de totalement injuste et qui pose problème.
Et ton bouquin, en plus, je vais rebondir là-dessus, parce qu'il se présente à la fois comme un condensé des recherches sociologiques qui sont menées sur les mouvements sociaux, mais c'est aussi plus que ça, il y a une thèse derrière ton bouquin. On sent une critique de ce qui est présenté toujours comme de la nouveauté, à la fois on présente les mouvements sociaux comme issus de nouveaux militants, de nouvelles formes de lutte, de nouveaux objets d'action, et toi tu dis, tout ça c'est en partie vrai, mais ça existait déjà auparavant, et il y a peut-être une forme de critique d'une certaine sociologie qui se fait sur ces mouvements sociaux.
Oui, ça c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que la nouveauté attire immédiatement plus l'attention, elle focalise la curiosité, alors que d'autres et puis bon, quand on est chercheur ou journaliste, on a toujours intérêt à montrer l'originalité de ce qu'on a découvert, de ce qu'on décrit par rapport à ce qui préexistait. Or, si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que beaucoup de choses qui sont réinventées aussi, parce qu'il n'y a pas forcément de transmission, de connexion entre différents terrains de lutte, des choses qui paraissent être inventées, en fait, préexistaient.
Précisément, oui, est-ce que tu pourrais de commencer à développer cet aspect-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui fait l'intérêt et la spécificité des travaux, enfin de ceux qui s'engagent dans les mouvements sociaux actuels et qui les distingueraient ou qui ne les distinguent pas aujourd'hui de leurs prédécesseurs.
Alors, si on regarde un peu le profil des militants, mais alors, bon, évidemment, il y a des nuances selon chaque mouvement. Dans le mouvement des intermittents, on va trouver nécessairement plus d'intermittents, etc. Mais bon, il y a des nuances aussi dans les mouvements de sans-papiers. Il n'y a pas que des sans-papiers, il y a des soutiens français. Bon, mais ce qu'on constate de manière générale, c'est que les gens qui sont les plus disposés à s'engager dans les mouvements sociaux sont... Et là, c'est aussi quelque chose qui est en rupture avec le sens commun ou les représentations un peu immédiates. C'est pas forcément les plus dominés qui vont, ceux qui auraient le plus de bonnes raisons de se révolter, qui vont se révolter le plus systématiquement, le plus facilement. En général, on va retrouver parmi les militants des gens qui ont déjà des compétences politiques, qui ont une façon de lire le monde qui les entoure, immédiatement politique. Alors ça, c'est du fait, c'est lié à une socialisation politique particulière, le fait d'avoir des parents eux-mêmes militants, d'avoir fait l'apprentissage de tout un ensemble de pratiques militantes, parfois depuis sa plus tendre enfance. Hein, quand on accompagne ses parents aux manifs du 1er mai, c'est la saison, quand on est enfant, on sait déjà un peu ce que c'est qu'une manif. Quand on parle de syndicalisme étudiant, etc., etc., c'est également quelque chose, ces dispositions à l'engagement sont généralement corrélées au niveau d'études. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont généralement un certain bagage scolaire, là encore qui nourrit une lecture politique du monde, qui vont le plus spontanément s'engager. Alors, bon, il faudrait nuancer, parce qu'il y a certaines personnes, ça on l'a vu, les travaux sur le Parti communiste notamment, ou sur le syndicalisme l'ont montré, l'action militante, l'engagement militant, c'est aussi un moyen d'acquérir des connaissances qui vont pallier combler une trajectoire scolaire qui a pu être plus décevante. Hein, c'est un moyen d'apprendre aussi, le militantisme.
Tous les ouvriers devraient apparaître.
Allô, Pierre Lantenac.
L'antenne ?
Oui, tu l'as.
Pierre Lantenac ici, je suis toujours... rue Saint-Jacques, et je dois dire que la tension qui tout à l'heure déjà était très grande, cette tension ne l'a pas baissé.
C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants chargés des CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent, tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement, mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire.
Reculez ! Les étudiants chargent !
eh bien les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers.
Alors voilà, on a commencé par le fond de nos archives, puisque ça, c'est les événements de mai 68. On est toujours avec Lilian Mathieu, à propos de son livre « Comment lutter ». On aurait aimé poursuivre sur cette question-là, des compétences militantes ou du bagage militant, je sais pas comment on peut l'appeler. Tu parles de ça dans ton livre. Qu'est-ce qu'on acquiert quand on est militant ? On acquiert des savoir-faire propres ?
Oui, on peut considérer que les mouvements sociaux, c'est un univers de pratiques spécifiques dans lequel on acquiert et on exprime un certain nombre de compétences spécifiques à la conduite des luttes collectives autour de différents enjeux. Un certain nombre de savoir-faire qui paraissent très banals pour les militants aguerris, comme savoir rédiger un tract, savoir faire un tract, oui, mais pas n'importe lequel, qui est un slogan qui attire l'œil, qui est pas un texte trop long, faut éviter le Times.9 parce que c'est illisible, bah oui, s'il y a une illustration un peu rigolote, c'est encore mieux. Bon, et puis savoir organiser une manif, savoir aussi mener une réunion, savoir qui y a à la réunion, savoir qu'un tel a de toute évidence c'est un lambertiste ou c'est un catho de gauche, tout un tas de savoir-faire informels, mais qui sont utiles pour la conduite d'une action collective et qui s'acquièrent de manière pratique. Hein, et qui sont, alors, je l'ai dit, qui peuvent être, qui paraissent évidents. On n'y pense pas quand on est un militant aguerri. On actualise ses compétences sans y penser. Et on ne se représente pas nécessairement ça comme un bagage, un capital militant. C'est une notion qui a été introduite récemment dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales, qui était la revue de Pierre Bourdieu. C'est un capital, c'est des choses qu'on peut valoriser. Mais l'idée de capital aussi, l'analogie économique, elle est intéressante parce qu'il y a des riches puis il y a des pauvres en termes de compétences militantes. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont dépourvus de ces compétences, qui sont souvent ceux qui sont du mauvais côté des rapports de force, ceux qui sont dans les situations les plus précaires à la fois économiquement, socialement, culturellement. Et là, on a un peu une clé qui fait que ceux qui ont le plus de bonnes raisons de se révolter parce qu'ils sont en situation les plus défavorables, bah, souvent, c'est ceux... Ils n'arrivent pas à se révolter parce qu'ils ne maîtrisent pas ces savoir-faire. Et souvent, ils ont besoin, lorsque véritablement ils commencent à émettre des velléités de contestation, ils ont besoin de soutien davantage aguerri. Ça, on le retrouve pour les sans-papiers, on l'a retrouvé dans le mouvement des chômeurs. C'est quelque chose que j'avais repéré dans les mouvements de prostituées, qui est une des règles des mobilisations de précaires.
En même temps, tu sembles dire dans ton livre qu'on n'a pas affaire à des intellectuels qui seraient là en porteurs de bonnes paroles et qui feraient prendre conscience à des personnes dominées, stigmatisées, etc. La prise de conscience, disons que c'est peut-être pas l'instrument qui permet de comprendre l'investissement dans la lutte de la part des populations les plus dominées.
Ce n'est plus ça aujourd'hui, en fait.
Alors, l'idée de la prise de conscience, c'est quelque chose qui vient du vocabulaire à la fois militant intellectuel. L'idée de la prise de conscience, on peut la rapporter à Lénine et à sa théorie de l'avant-garde, hein, où ce sont les intellectuels petits bourgeois qui vont apporter la vérité à la classe ouvrière, qui par elle-même est incapable d'accéder à la conscience de classe. Bon, c'est une notion qu'on a retrouvée après dans les milieux tiers-mondistes, qu'on a retrouvée également dans le féminisme, hein, avec les groupes de prise de conscience où il s'agissait entre femmes de prendre conscience de la domination subie de la part du patriarcat. Alors, c'est une notion qui est intéressante, qui peut avoir une efficacité militante, hein, et qui, en termes de rentabilité ou d'intérêt sociologique, me paraît beaucoup plus contestable, justement, parce qu'il y a l'idée d'une vérité qui serait à découvrir et qu'une fois qu'on l'a découverte, les gens s'engageraient spontanément. Alors il y a plusieurs, ça pose problème à plusieurs niveaux, c'est-à-dire par exemple Pierre Bourdieu avait critiqué la notion de prise de conscience dans son travail sur la domination masculine en disant que être informé quand on est dominé ne suffit pas à déclencher une révolte contre la domination et encore moins une libération de cette domination parce que souvent elle est intériorisée, elle est incorporée, hein, ça agit dans le corps la domination est toujours susceptible de ressurgir dans des situations un petit peu anxiogènes, sous forme de timidité, etc. L'autre problème, c'est celui de qui c'est qui détient cette vérité. Et là, on retrouve tout le problème des rapports entre les dominés et les soutiens. C'est-à-dire, c'est les soutiens qui vont dire, ben voilà, t'as accédé à la vérité vraie, t'as pris conscience de... Mais cette vérité vraie, elle peut être tout aussi contestable. Hein. Et ça introduit, sous couvert de s'en libérer, de nouveaux rapports de domination à l'intérieur des mouvements sociaux.
Go for landing, over. 3 seconds. Lights on. Down 2.5.
Non, c'est pas... Tant qu'on brûlera des voitures, on verra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif.
Oui. Forward. 23, down 2.5.
Je pourrais vous en dire qu'il vous en apprendrait sur vous-même, je suis désolé. Je me permets de dire ça avec arrogance, je m'en fous.
Voilà, c'était quelques extraits de Pierre Bourdieu qu'on pouvait entendre dans le film de Pierre Karl, La sociologie est un sport de combat. Cédric.
Oui, donc je vais rebondir donc sur Bourdieu puisque j'ai et sur les relations entre dominé et soutien dans les mouvements sociaux. Donc j'ai relevé une phrase que tu cites et qui mériterait d'être explicitée parce qu'elle n'est pas tout à fait claire prise de manière isolée. C'est Bourdieu disait il faut toujours risquer l'aliénation politique pour échapper à l'aliénation politique. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'il entendait par là? Est-ce que tu entends par là lorsque tu la reprends?
Oui, je vais essayer d'être, je suis pas sûr d'y parvenir comme ça, d'expliciter un peu cette notion qui me semble très, très importante, qui est tirée d'un texte de Pierre Bourdieu sur la délégation. C'est-à-dire le fait que pour exister politiquement, un groupe, quel qu'il soit, il a besoin de porte-parole. Et ces porte-paroles font exister le groupe en disant « je suis représentant des intermittents, je parle au nom de la classe ouvrière, je suis délégué des sans-papiers, etc. » On fait exister le groupe, on fait exister ses intérêts collectifs, le problème potentiel, qui n'est pas toujours présent, mais qui existe à l'état potentiel, c'est que ce porte-parole ne pas respecter ou ne pas être le relais fidèle des intérêts du groupe qu'il représente. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec dans toute la tradition du mouvement ouvrier, comment les parlementaires de gauche, socialistes, communistes, qui sont là à l'Assemblée pour porter les intérêts, défendre les intérêts de la classe ouvrière, se laissent prendre par le jeu propre au monde partisan et n'en viennent davantage à défendre leurs intérêts à eux et pas les intérêts de ceux qui les ont mandatés. Donc à la fois, cette représentation, cette question du porte-parole, elle est nécessaire, on a besoin de délégués, de représentants, mais elle est source de danger. Alors il y a des moyens, plus ou moins, il y a des techniques, là aussi, des savoir-faire militants, qui peuvent permettre de parer à ces risques de dépossession de la parole et des intérêts collectifs qui peuvent être le mandat impératif, qui peuvent être le mandat révocable, qui peuvent être des systèmes de chaises musicales pour éviter une trop grande professionnalisation des représentants. Mais ça reste un problème très dans tous les collectifs militants.
Alors là, ces formes de révocabilité, si je me souviens bien, tu les évoques surtout à propos des libertaires.
Disons que la tradition libertaire a été une de celles qui a le plus posé ce problème-là, qui s'en est le plus saisi, avec des problèmes aussi si les représentants changent tout le temps. Ça pose un problème justement pour l'acquisition des savoir-faire utiles à la lutte. Ça pose tout un tas de... Il n'y a pas de formule idéale. Simplement, l'apport de la critique libertaire, c'est de toujours rappeler ce problème-là, de rappeler qu'il y a ce danger de la dépossession des mandatés par... Enfin, la dépossession de ceux qui sont représentés par leurs représentants.
Et précisément, justement, dans le cas des mouvements sociaux actuels, comment as-tu analysé, quels ont été les travaux et comment en a-t-on analysé justement ces rapports entre ceux qui luttent et ceux qui les représentent, qui ont la charge de parole?
La sociologie, elle est plus là pour pointer, là aussi, identifier le problème. C'est pas forcément aux sociologues de fournir des recettes miracles.
Non, c'est pas de fournir des recettes, c'est analyser.
On s'est aperçu, par exemple, il y a un mouvement de lequel ce problème est apparu de manière exemplaire, ça a été le mouvement des chômeurs en 97, où on s'est aperçu que les médias recherchaient toujours les mêmes porte-paroles, qui étaient des porte-paroles qui étaient souvent des syndicalistes aguerris, qui avaient une certaine aptitude à, en 20 secondes, résumer les enjeux de la lutte, etc. Sauf que, évidemment, par l'attention des médias portée sur toujours les mêmes porte-paroles, on avait un phénomène de starisation qui était contesté par la base et certaines manières à juste titre, et ces porte-paroles qui se retrouvaient toujours sollicités par les médias étaient eux aussi conscients du problème, essayaient de le parer, mais ils savaient que s'ils mettaient un chômeur de base qui n'a pas l'habitude, qui, comme Short le fait, se perd un peu dans son discours, ça va pas passer. Donc voilà, il y a une tension entre s'en remettre à des professionnels, entre guillemets, qui sont capables de porter une parole synthétique, forte, efficace, et le risque de la dépossession de la base.
Oui, on va continuer sur ce thème-là, puisqu'ici, donc, il y a des personnes qui ont milité dans des mouvements sociaux et qui ont fait partie donc de ces groupes de soutien à des mouvements dont ils ne faisaient pas partie en propre. En particulier, je pense au mouvement des McDo. Vous avez participé, enfin, Pierre notamment et d'autres ici, Alexandrine ici, à participer à ce mouvement. Et vous pouvez peut-être parler de cette expérience et du fait que c'était un problème pour vous. Réfléchir à cette expérience-là durant le cours de l'action et les difficultés que ça a entraîné.
Alors, je ne sais pas, Alexandrine donnera son regard, mais c'est vrai que c'était assez compliqué de faire partie du comité de soutien au McDo dans la mesure où c'était par exemple, c'était des gens qui se réunissaient pas ou très peu. Ça discutait en binôme, par trois, mais les grands messes militantes, quand on a un capital militant, le mercredi à 19h, il y avait réunion où tout le monde prenait la parole, échangeait, ça discutait à ce moment-là. Et c'était des choses qui étaient très, très difficiles. Il y a eu toute une ambiguïté dans le fait que un comité de soutien, la CGT de l'autre côté, dirigeait parfois volontairement malgré eux ce mouvement, ou prenait des décisions pour ce mouvement, parce que il n'y avait pas de discipline militante, de savoir-faire militant de la part de ces jeunes qui se sont mis en grève là pour le coup sur des réactions au départ très très épidermiques. Et donc, c'était très, très compliqué. C'est un mouvement très particulier, celui des McDo, parce qu'il y a 6000 McDo en France. Ça a été énorme, l'ampleur médiatique de ce truc pour un McDo, un 6000ème des effectifs en France. Je crois que sur les 3 dernières années, il y a eu une dizaine de McDo touchés par ne serait-ce que quelques heures de grève. Donc, c'est excessivement minime. Et ce que je disais en introduction aussi, il faisait un mouvement très particulier parce que il y avait un nombre d'observateurs du mouvement, on avait l'impression d'une espèce de mouvement réflexif quoi, qui se regardait militer en permanence, tellement il y avait de gens. Alors j'ai dit un peu tout dans le désordre, mais je sais pas comment toi tu as pu voir ce mouvement-là pour...
C'est pas un mouvement que j'ai directement suivi, mais dans ce que tu décris, on repère un peu des constantes de ce type de mouvement lancé souvent pour des raisons assez émotionnelles. très épidermique, mais très désorganisé, de gens qui savent pas totalement comment s'y prendre, qui ont une idée parfois un peu vague de comment on mène une lutte. Alors bon, il y a l'idée de la grève, mais bon, il y a un droit de grève, c'est juridiquement encadré. Donc comment on fait? Est-ce qu'on peut occuper le local? Est-ce que quand le gérant dit qu'on n'a pas le droit, est-ce que c'est vrai? Bon. Il y a tout un tas de choses qui sont floues et bah, on est obligé de solliciter des gens qui sont davantage aguerris, mais ces gens ne sont pas directement concernés, ne savent pas eux comment ça bosse exactement dans un McDo, quels sont qui sont les gens qui travaillent dans un McDo, quelles sont leurs contraintes de la vie quotidienne, par exemple, quand c'est des étudiants, quand c'est des temps partiels, etc. Et puis bon, c'est aussi deux cultures qui se rencontrent, qui avec plein de bonne volonté, hein, souvent des deux côtés, mais qui parlent pas forcément le même langage. Et il faut arriver à établir un langage commun qui puisse fonctionner, qui permette aussi aux gens de s'approprier un savoir et des savoir-faire militants pour conduire leur lutte de manière autonome.
Alexandrine.
Oui, non, j'ajouterais juste sur ce pseudo-là, donc qui a fait parler de lui quand même plusieurs fois en plus de deux ans, avec plusieurs grèves. Il y avait quand même déjà des syndicalistes dans ce McDo-là. Il y a eu d'autres grèves, notamment à Saint-Germain, pas forcément très longtemps, mais où les grévistes étaient allés voir, enfin, ils avaient eu des contacts quand ils se sont ensuite mis en grève à Strasbourg-Saint-Denis. Et puis, bon, c'était un groupe très soudé aussi au départ, les salariés. C'est un truc qui est quand même assez rare dans les McDo, parce qu'il y a un turnover très fort. Et donc, il y a une petite particularité quand même du McDo en question, celui de Strasbourg-Saint-Denis.
Oui, là, on retrouve peut-être aussi une constante qui est, c'est pas n'importe quel dominé qui se révolte dans les révoltes de dominés. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont déjà, c'est les moins dominés des dominés, où, bon, c'est des choses qu'on repère, où il y a déjà un minimum de capital militant.
On se battra toujours contre McDonald's.
Alors, solidarité avec ces jeunes salariés. Boycotter McDo autant qu'on n'a pas eu satisfaction. On n'a jamais rien cassé. 109 jours de grève, il n'y a jamais eu de problème chez McDo. Alors, solidarité avec les salariés qui défendent juste leurs droits. Ils n'ont rien demandé de plus. Leurs droits.
Non, McDo!
Consommateurs collaborent!
Voilà, quelques échos d'une des manifestations de la deuxième grève, celle qui a duré un an, des McDonald's de Strasbourg-Saint-Denis. Cédric.
Oui, donc c'est simplement pour apporter une petite précision, c'est-à-dire que là on vient de parler de mouvement de dominés. Moi, j'interviens actuellement dans un mouvement plutôt de dominant, c'est-à-dire le mouvement de la recherche. Et on peut faire plus difficilement dominant que celui-là, c'est-à-dire des gens très dotés scolairement. Avec des statuts plutôt sécurisants pour ceux qui mènent le combat. Et là on voit bien que pour le coup, on parvient à mettre à l'écart dans le mouvement l'ensemble des personnes qui voudraient nous aider, voire même qui voudraient prendre possession du mouvement, comme les associations, par exemple, de malades, notamment du sida. Donc là, on a un mouvement qui est relativement serré et qui parvient à mettre à l'écart l'ensemble des gens qui n'en font pas partie, ils n'en ont pas besoin comme porte-parole. Et du coup, ça m'amène à te poser une question, c'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le fond de commun entre un mouvement des chercheurs et cette grève McDo, par exemple?
Oui, la vaste question. Moi, je suis pas un adepte des définitions bien nettes, bien carrées, parce que on trouve nécessairement le mouvement social qui va pas correspondre à la définition. Bon, on peut dire qu'on peut délimiter globalement les mouvements sociaux comme un domaine d'activité, de militantisme. Un mode de participation collectif, ça je crois que c'est une dimension importante, qui se joue à distance de la politique institutionnelle, parfois contre elle, mais pas nécessairement contre elle, hein, parce qu'il y a aussi des formes de partenariat, des formes plus nuancées de relations à l'État ou plus généralement au pouvoir public. Et qui se focalise sur des enjeux limités. Alors ça, c'est peut-être le point que tu évoques à la fin de ta question, c'est-à-dire que le mouvement des chercheurs va viser à défendre les intérêts des chercheurs. C'est pas forcément la même chose que les intérêts des intermittents. Alors, il y a des jeux tactiques, il y a des jeux de coalition, d'alliance. C'est-à-dire que quand différentes catégories sont soumises à des formes similaires de répression ou des formes similaires d'attaque, les salariés ou les différents services publics, que ce soit la santé, l'enseignement, les transports, etc., on peut tenter des coalitions. Hein. On peut aussi tenter, ça a été le cas en 95, lorsque les cheminots étaient considérés comme la locomotive du mouvement, on peut se raccrocher à des luttes lancées par d'autres pour faire valoir ses propres intérêts. Donc il y a une efficacité à l'établissement des coalitions. Il y a un danger aussi dans les coalitions lorsque on en arrive à croire que tout le monde lutte pour les mêmes choses, alors qu'en fait c'est plus compliqué, c'est composite. Au bout d'un certain moment, on s'aperçoit que finalement, c'est pas tout à fait pour les mêmes enjeux, même si on a des intérêts communs entre les chercheurs et les malades du sida. Effectivement, on peut avoir un intérêt commun à ce qu'il y ait une recherche efficace. Dans le même temps, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà comment je délimiterai un peu le domaine des mouvements sociaux.
Et le fait qu'ils interviennent sur un domaine spécialisé, est-ce que ça entraîne des formes d'action et d'organisation particulières dans ces mouvements ? Est-ce que ça fait émerger de nouvelles formes d'organisation, comme on le dit souvent, comme on le lit souvent ?
Une nouvelle fois, la question du nouveau, c'est aussi de la réinvention, c'est de l'adaptation de formes anciennes que parfois on réinvente sans les connaître. On a souvent dit que certaines composantes du mouvement altermondialiste réinventaient des formes d'organisation anarchistes, mais ils ne se revendiquent pas forcément de l'anarchisme parce que les gens n'ont pas nécessairement lu Bakounine, Proudhon et l'histoire de la guerre d'Espagne. Donc il y a des formes d'organisation qui sont hétérogènes aussi entre les coordinations, entre les groupes d'affinités, etc. On peut repérer un répertoire de formes d'organisation plus ou moins bureaucratiques, plus ou moins horizontales dans les mouvements sociaux. Et là aussi, la question du nouveau, elle est souvent assez vaine.
Et le fait qu'il y ait des dimensions plus internationales ou plus transnationales, est-ce que ça a changé quelque chose dans ces modes d'organisation de ces groupes ?
Alors, la question du transnational, à l'examen, on s'est aperçu que les mouvements qui se disaient transnationaux étaient quand même très ancrés dans des cadres nationaux. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, une association qui se veut très transnationale comme ATTAC, il y a des comités ATTAC en Suède, au Maroc ou en France. C'est des ATTAC extrêmement différents selon les sites en termes de composition militante, en termes de rapport au pouvoir politique, en termes de manière dont on est repoussé ou, à l'inverse, l'objet d'entreprises de séduction de la part des partis politiques, c'est extrêmement hétérogène. Donc, il y a des échanges internationaux qui se sont développés, qui sont peut-être plus intenses aujourd'hui qu'il y a, il y a 20 ou 30 ans, mais là encore, on dit « Ah, maintenant, c'est transnational, c'est nouveau ». La première internationale au milieu du 19e siècle, c'était aussi un mouvement transnational qui était composé d'unités ancrées dans des lieux nationaux.
Mais justement, est-ce que l'affirmation de ces mouvements, du fait qu'ils sont internationaux, alors qu'on l'a bien vu, par exemple, pendant le FSE qui avait lieu à Saint-Denis, en fait, ça ne marchait pas si bien que ça. Il n'y a pas un enjeu de représentation qui se soucie peu de la réalité des pratiques internationales ou internationalistes des orgas.
C'est-à-dire que là, il y a un enjeu un peu tactique. C'est que face à un adversaire de portée transnationale, l'OMC, le FMI, etc., c'est important de prétendre et de se donner une stature, là aussi, internationale. Donc il y a aussi des enjeux de la manière dont concrètement on s'attaque à un adversaire. C'est-à-dire il faut aussi se mettre à sa portée, à son niveau, pour pouvoir lui porter des coups. Et c'est aussi un enjeu peut-être plus symbolique ça a été un enjeu très important pour le mouvement altermondialiste de ne pas être envoyé à la critique du souverainisme ou du nationalisme, ce qui était aussi un enjeu extrêmement important pour par rapport à ce qu'est ce mouvement et ce qu'il défend.
Je pensais à Guillaume, qui est notre globe-trotteur, qui va dans tous les forums sociaux internationaux. Peut-être le seul vrai moment où il y a un effort collectif qui est produit, c'est dans les bastons de rue de type Gênes, Guillaume. Là, tu les as vus tous ensemble à l'œuvre, les internationalistes grecs, allemands.
Je n'avais pas songé, mais effectivement, c'est une très bonne remarque, Pierre. Effectivement, lorsque j'ai participé un peu aux affrontements à Gênes, mais également à Prague, on a pu constater qu'effectivement, en cas d'agression policière, en cas d'émeutes, de barricades qui s'érigent dans la rue, et le travail collectif, la façon de transverser les langues, parce que je parlais pas un mot d'italien, mais j'ai quand même pu participer à l'érection d'une barricade, enfin, ce genre de choses, qu'on était coincé dans des petites rues avec les flics, effectivement, ce genre de situation facilitait en fait la fraternité entre les citoyens de différentes nations. Oui, effectivement, on peut voir ça comme ça.
Je crois qu'il y a une voix là.
Les lacrymogènes, on aime, on aime, on aime. Les lacrymogènes, on aime, on aime, on aime.
Mais les grévistes ne sont pas acceptés les propositions de les patrons. Ils ont continué les grèves jusqu'à obtenir leurs revendications.
Moi, je crois qu'on a une étape là. Ça fait 3 mois que la grève a commencé et c'est une étape. Au bout de 3 mois, le patron il vient de comprendre qu'en face de lui il a des gens, il a des grévistes et des gens qui se battent.
Il y a un moment, je pense que voilà, quand la culture et l'éducation est touchée, je pense que c'est assez symptomatique d'une société et il faut se questionner. Surtout quand la même société renforce les pouvoirs militaires au même instant. Quoi. Moi ça me rappelle Mohsin.
Pourquoi on est en colère? Parce qu'il y a des formes qui sont en train de précipiter des milliers de gens dans la misère et dans la précarité. On peut pas s'en étonner, mais en tout cas, on peut se battre contre.
Ça n'est pas fini, c'est tout. Ça continue. Et c'est pas parce que c'est l'été qu'il y a une trêve véritable. De toute façon, le gouvernement, lui, fait pas la trêve. Hein. C'est clair.
Vous envisagez comment la rentrée?
Interprofessionnelle, multiple, variée et en lutte, toujours.
Alors, viens calculer s'ils ont fait suffisamment de mois de travail dans la période précédente, dans leur chômage, ils peuvent bénéficier de l'ASS. Bon, mais ça, c'est restreint notamment du fait que l'ASS, maintenant, va passer à 2 ans, alors qu'avant, elle était limitée. Et ceux qui n'auront pas droit à l'ASS, ils basculeront dans le RMI.
Ouais, devenir le RMA.
Il va devenir le RMA, ouais, super, voilà. Donc, à tous les étages, on s'en prend plein la gueule.
Tout juste pour vous dire que la lutte continue pour ceux qui sont nous.
Ils ne veulent plus voir ma tête parce que peut-être que je suis quelqu'un qui... très combatif.
On en a marre de toi, Patty, apparemment.
On continue l'action. Ça, on a lassé pas.
Ça fait peur et ça fait trop peur parce que déjà organisé, ça risquerait méchamment, quand l'essence sera organisée, de faire une puissante révolution et tous ceux qui sont au cul du patronat, ça, ils n'en voudraient vraiment pas. Yes.
Ces camions lancés à plein régime de s'arrêter. Donc en fait, ce car-là, il a fait un aller-retour dans l'avenue qu'on occupe et il est retourné retrouver ses camarades afin de leur permettre sans doute, en fait il a fait une bonne diversion puisqu'il leur a permis aux cars qui étaient bloqués un peu n'importe comment au bout de l'avenue, le long de la voie ferrée, de pouvoir se dégager par leurs propres moyens sans trop de difficultés.
Voilà, alors ça c'était Guillaume Yom à Gênes en juillet 2001, en plein milieu de la Castagne. Et puis alors avant, vous avez pu entendre une sélection qu'a fait Alexandrine. Il y avait Frog qui était, c'était en juillet 2003. Le 14 juillet 2003 aussi, l'Interpro suite au mouvement du printemps de 2003, la manif des chômeurs et des précaires, ça c'était en décembre 2003. Il y avait Fatih Maillan dont vous a parlé dans l'agenda, ça c'était en novembre 2004. Et puis un petit extrait d'un camarade belge qui prenait la parole lors du FSE 2003. Voilà, on a identifié tout le monde. On est toujours avec Lilian Mathieu et son livre Comment lutter, paru aux éditions Textuelles. Cédric.
D'accord, je pensais qu'il allait faire la transition sur le camarade belge. Bonjour. Donc, je voulais dire simplement que c'est très très agréable de parler avec un sociologue qui voit pas du nouveau partout, mais je vais comme enfoncer le clou. Mais je vais enfoncer le clou quand même. Donc, comme tu dis, la spécificité des mouvements sociaux, c'est de travailler sur des sujets précis, délimités. Est-ce que du coup ça n'entraîne pas une nouvelle forme de militantisme pour ces militants par conscience dans la mesure où ils appartiennent à plusieurs organisations en même temps, qu'ils peuvent se réapproprier des modes d'organisation, des modes de relation d'une organisation à l'autre, des réseaux pour le dire vite, qui sont un peu en décalage avec ce qu'on pouvait connaître notamment au sein du Parti communiste français dans les années 50-60 par exemple?
Je sais pas si... Si là aussi, il n'y a pas une illusion de la nouveauté, c'est-à-dire que le militantisme communiste que tu prends en exemple, ça impliquait aussi d'être syndiqué dans son entreprise, ça impliquait d'être investi au niveau de la municipalité, au niveau du quartier, au niveau de tout un ensemble d'associations qui étaient dans la mouvance plus ou moins dépendante ou autonome, mais on pouvait être militant au MRAP, au mouvement de la paix, etc., quand on était militant communiste. Donc là aussi, la multi-appartenance et la transmission, les transferts de compétences, de savoir-faire d'un domaine militant à un autre, c'est pas quelque chose de radicalement nouveau. Alors peut-être que les supports sont... De transmission de ces savoirs se sont peut-être développés. Il y a sans doute une autonomisation par rapport au champ politique. Ça, je pense que c'est assez net. Une autonomisation de l'espace des mouvements sociaux par rapport à l'univers des partis politiques. Pour autant, je ne pense pas que là aussi on puisse trouver une radicale nouveauté.
Et même dans la mesure où ces partis pouvaient contraindre les gens, ou du moins les insérer dans des circuits très fermés de relations amicales, voire sur le marché matrimonial, etc., etc.
Oui.
Je reprendrai ta question justement parce que cette notion de l'engagement comme un endoctrinement, c'est comme un discours qui est prégnant, qui vient souvent du même coin de la salle. Comment vous le voyez ça? Parce que moi je vois ce que.
Il y a eu tout un discours, tout un courant d'analyse des mouvements sociaux qui justement mettait l'accent sur la nouveauté, sur le militantisme intermittent, sur le militant beaucoup plus libre par rapport, autonome, indépendant par rapport à l'organisation dans laquelle il milite, qui était aussi des analyses avec des arrière-pensées politique qui était regardez l'ancien, c'est le Parti communiste, regardez comme c'était mal, les gens étaient endoctrinés, ils étaient cadrés, ils pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient, et regardez aujourd'hui avec ces nouveaux mouvements sociaux comme les militants sont beaucoup plus libres. À y regarder de près, on va retrouver des formes très similaires d'engagement, de phases de militantisme intensif, et puis des phases de retrait, aussi des logiques d'investissement dans le militantisme qui n'ont pas que la politique ou les luttes comme enjeu. militer dans des collectifs, dans des associations, c'est un moyen de se faire des amis, de trouver des conjoints, etc. Et ça, c'est quelque chose de qui a pas beaucoup changé, hein.
Oui. Et puis dans le fonctionnement interne de ces mêmes nouvelles organisations, on peut retrouver aussi tous les travers qu'il y avait.
Oui, on retrouve des organisations horizontales, il y en avait déjà avant. On retrouve des organisations bureaucratiques, il y en avait déjà avant. Bon, c'est pas. Là aussi, je pense que le prisme de la nouveauté est un prisme très souvent trompeur.
Oui, tu me regardais à propos des conjoints dans le militantisme, c'est pour ça.
J'ai rien dit.
Alors, vas-y.
Oui.
Non, parce que vas-y.
Ouais, je voulais quand même toujours continuer autour de ces questions-là. Une des dimensions qui a peut-être amené l'idée qu'il y aurait une nouveauté dans les mouvements sociaux, c'est le relais médiatique de ces mouvements qui cherchent en permanence à s'assurer une image dans les médias officiels et au-delà de leur support propre.
Alors, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être pas tant une dépendance plus forte à l'égard des médias, mais une croyance qui s'est largement diffusée d'une dépendance à l'égard des médias, ce qui fait qu'un certain nombre de mouvements sociaux sont devenus extrêmement attentifs à l'écho dont leurs actions va bénéficier dans la presse. C'est important, on fait peut-être un peu plus attention à ce que la manifestation elle commence pas à 8h moins le quart du soir, mais un peu plus tôt, justement, pour pouvoir être relayé à 8h moins le quart. Et puis, il y a des savoir-faire militants. Lorsqu'on ne peut pas peser par le nombre en réunissant beaucoup de monde, lorsqu'on est un petit groupe, lorsqu'on représente une minorité, ben on va faire des actions spectaculaires de manière à attirer l'attention des médias. Donc, il y a à la fois une logique, une situation de dépendance, c'est-à-dire qu'un mouvement, une manifestation, on a pu dire qu'une manifestation qui n'a pas été relayée par les médias n'a pas existé, ou en quelque sorte elle n'a pas de poids politique, parce que justement il y a la croyance pas partagée uniquement par les militants, mais également par les responsables politiques, que plus on en parle dans la presse, plus c'est important. Donc, il y a une dépendance, mais dans le même temps, il y a aussi la conscience que les médias ont leur logique propre, à la fois parce que les journalistes travaillent toujours très vite, parce que certains médias sont pas totalement autonomes à l'égard de soit des pouvoirs politiques, soit de pouvoirs économiques, d'où la nécessité aussi pour les mouvements de se doter de supports, de canaux de circulation de l'information qui soient propres. Alors ça, c'est, là aussi, c'est pas nouveau, hein. L'Humanité, c'est un quotidien qui est quand même assez ancien. Il y a dans la résistance aussi, c'était important d'avoir des journaux spécifiques parce que on savait que les médias dominants étaient pas libres, la circulation de l'information était pas libre. Aujourd'hui, bon, il y a d'autres canaux de circulation de l'information, que ce soit cette radio, grâce à la loi sur les radios libres de 81, mais Internet plus récemment, etc. Donc c'est aussi un enjeu important pour les mouvements sociaux de se doter, de maîtriser l'information qui les concerne.
Mais justement, est-ce que tous les mouvements sociaux mettent au cœur de leur démarche et des enjeux d'obtenir une couverture médiatique, ou est-ce qu'il y a des formes de mobilisation, j'imagine qu'il y a des formes de mobilisation qui font plus appel à du lobbying ou des pressions ciblées pour obtenir des choses?
Oui, mais l'un se combine harmonieusement avec l'autre. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui sont des mouvements qui sont à la fois spécialistes des actions spectaculaires qui vont faire la une du 20h et qui, dans le même temps, vont négocier parce que ils ont des contacts dans les ministères, parce qu'ils connaissent un certain nombre de députés qu'ils ont sensibilisés à leur cause. Et donc, on joue sur tous les tableaux. Et ça, c'est assez fréquent dans les mouvements sociaux de multiplier les formes d'action et les moyens de pression sur le pouvoir politique.
Nous voulons une véritable réforme négociée avec l'ensemble des concernés. Nous voulons que nos propositions soient prises en compte. Nous voulons une émission de débat contradictoire à une heure de grande écoute sur ces questions. Ce que nous le défendons pour tous. En 4 mois de lutte, on nous a rarement laissé la parole. Nous avons beaucoup appris en partageant ce combat. Nous savons que notre lutte n'est pas catégorielle. En exigeant de nouveaux droits sociaux pour les salariés à l'emploi discontinu, C'est à la précarisation de l'emploi que nous nous opposons. Ce que nous le défendons pour tous.
Si demain, dans notre pays, chaque catégorie de citoyens qui a un point de vue à faire valoir, une revendication, à faire aboutir, s'estime fondée, en droit à s'emparer de telle ou telle rédaction, de la rédaction d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de radio, la rédaction également d'un quotidien pour faire pression par un acte de violence et s'exprimer de cette façon, l'information ne sera plus possible de façon régulière dans notre pays.
Voilà, alors on vient d'entendre les intermittents qui avaient investi les locaux de France 2 et qui, en plein journal de David Pujadas au 20h, avaient pris en otage le journal et avaient fait leur déclaration. Et puis après, on a entendu feu Jean-Jacques Ayagon qui a tenté d'être ministre de la Culture quelques temps. Donc on est toujours avec Lilian Mathieu. On va faire un peu la retape hein, pour vos éditions. Ça doit être un des derniers éditeurs à peu près indépendants. Hein, donc on va les éditions textuelles et son livre Comment lutter. Il y avait une question parce que vous englobez dans la manière dont vous présentez ce que sont des mouvements sociaux, vous englobez à la fois SOS tout petit, le DAL, tout ça, en disant qu'il y a un mode de fonctionnement qui en font des mouvements sociaux et que on peut pas les classer en fonction du fait que ça soit rétrograde ou pas ce pourquoi ils luttent. Mais est-ce que malgré tout, il existe des vraies différences, des modes d'organisation, des modes de représentation, un peu de tout ce dont on vient de discuter, en fonction des mouvements de gauche et des mouvements de droite.
Alors, peut-être que les mouvements de droite étant davantage attachés à des valeurs d'autorité, on va moins retrouver ce qu'on évoquait tout à l'heure de la critique libertaire du porte-parole. Et du chef. Donc mais ça, je pense que c'est relativement secondaire. On va dire qu'on retrouve dans les mouvements sociaux, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors évidemment, la tradition contestataire, ça c'est peut-être aussi une explication du biais. La tradition contestataire de prendre la rue et de contester les autorités en place, c'est plutôt une tradition de gauche. Pour autant, depuis quelques années, un certain nombre de groupes plutôt localisés à droite ou à l'extrême droite n'hésitent pas à recourir aux formes d'action classiques des mouvements de gauche. Hein. Depuis la grande manifestation pour la défense de l'école libre qu'il y a eu en 84, prendre la rue, ça se fait aussi à droite. Hein. On a vu aussi les manifestations contre le PACS. Bon, donc il y a eu un apprentissage des modes d'action des mouvements sociaux de la part de groupes de droite. Et là encore, faut se méfier de la nouveauté, hein, l'appel à l'insurrection ou la contestation dans la rue, c'est une tradition de droite dans les années 30, l'extrême droite des ligues utilisait autant les barricades que la gauche ou l'extrême gauche. Hein. Donc on va retrouver des formes d'organisation, des formes de lutte relativement, et l'important c'est le relativement, similaires. Hein. Les anti-pax font des manifs souvent... ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des logiques aussi de mimétisme entre mouvements antagonistes. C'est-à-dire qu'une des grandes préoccupations de ceux qui ont organisé la manifestation anti-pax, c'était de faire aussi fort que la Gay Pride. Alors là, c'est un peu surprenant, paradoxal, mais c'était aussi, ça revient un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est important de se mettre au même niveau que l'adversaire. Il faut faire aussi bien, voire même mieux. Hein. Y a une étude qui a été menée par une sociologue américaine qui s'appelle Susan Stagenborg, qui a étudié le mouvement hostile à l'avortement et le mouvement féministe. Et qui a montré qu'il y avait une logique d'interdépendance, c'est-à-dire que chacun se mobilise quand l'autre fait une action. Il est important de lui répondre, et de lui répondre sur le même terrain. D'où une logique un peu de mimétisme, d'homogénéisation des plannings de lutte, et un petit peu de mimétisme. On va se retrouver aux mêmes endroits, autour des mêmes cliniques, autour des mêmes, ça on le constate en France, autour des mêmes tribunaux lorsqu'il y a le procès d'un commando anti-IVG, Les anti-IVG vont essayer de contrer le discours féministe. L'air jeune, alors il y avait eu un groupe là qui est né il y a quelques années qui s'appelle Les Survivants, où il s'agit de justement de pas paraître comme des cathos, réac, ringards, mais il s'agit d'apparaître jeune, joyeux, etc., tout en défendant les mêmes idées. Donc il y a des luttes qui font que des groupes pourtant opposés, diamétralement opposés politiquement, vont mobiliser des formes d'action relativement similaires.
Alors voilà, fallait illustrer ce que nous disait notre invité Lilian Mathieu, un petit extrait d'une manifestation de droite qu'on a croisée un jour d'été du côté de Saint-Michel. Alors on approche un petit peu de la fin de cette émission. Cédric, tu voulais aborder un petit peu un dernier sujet qui fait aussi, si j'ai bien compris, la fin de ce livre, la conclusion de ce livre.
Mais oui, donc la grande question qu'on se pose tous, c'est bon, à quoi bon tout ça, et est-ce que les mouvements sociaux, est-ce que ça marche?
Il faut que je réponde comme ça. Oui.
En un seul mot.
La question abrupte, ben non, en un seul mot, c'est impossible. Et qu'est-ce que ça veut dire si on considère l'obtention des revendications portées explicitement par un mouvement, en général, ça marche pas tout à fait. C'est-à-dire que l'issue d'un mouvement social, l'issue d'une mobilisation, c'est le fruit d'un travail de négociation. Il n'y a pas que du conflit dans une mobilisation. Il y a une part de négociation sur le montant de l'augmentation de salaire qui va être obtenue, sur le retrait de certaines dispositions législatives. Il y a un travail de négociation dans le meilleur des cas. Et c'est pas toujours le cas. Après, lorsqu'il s'agit de faire émerger une question, de sensibiliser la population, de rendre une revendication légitime, on s'aperçoit que les mouvements sociaux ont un rôle extrêmement important. Mais là aussi, c'est un travail de longue haleine. Et une fois qu'on a imposé une question, il y a tout un travail de retraduction politique. Il y a tout un travail de suivi, de continuer à faire pression pour que la barre soit montée la plus haute possible. Mais là aussi, les mouvements sociaux perdent un peu de prise lorsque, par exemple, on exige une loi. Bon, je prends un exemple que j'ai pas mal suivi, qui est contre la double peine. Il y a des revendications qui ont été portées, qui étaient extrêmement fortes. Il y a eu un travail de sensibilisation de l'opinion publique à cette question. Désormais, les gens savent un peu mieux ce que c'est que la double peine, pourquoi c'est scandaleux. Et puis après, il y a eu un travail de traduction politique. Et là, il n'y a plus de prise sur le ministre qui défend un projet de loi, surtout quand il s'agit en l'occurrence de Sarkozy, c'est pas évident. Il y a tout un travail de contrôler la logique du débat parlementaire à sa logique propre. Il est difficile d'intervenir lorsqu'on est en dehors de l'hémicycle, lorsqu'on est un groupe d'associations. Et donc, les résultats sont parfois ambigus, nuancés, sont pas aussi importants que ce qu'on espérait. Pour autant, il y a eu des avancées.
Mais à côté de ça, on peut dire aussi que le mouvement social en lui-même peut aussi être un facteur de mobilisation pour d'autres choses par la suite. C'est-à-dire, on s'embrigade dans un mouvement, bon, peu importe son débouché, mais par la suite, peut-être que le travail qui a été fait à l'intérieur de ce mouvement va être porteur de d'autres combats possibles ensuite.
Oui, il y a des effets d'entraînement. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens qui commencent à militer dans un mouvement et puis qui vont poursuivre une carrière militante. On a parlé de la génération 68, ils sont pas tous devenus rédacteurs-chefs de Libération. Les militants se sont investis dans d'autres causes, dans le féminisme, dans l'écologie, et les 68ards sont restés dans leur écrasante majorité des gens extrêmement militants. On peut parler aussi à la génération de contestation du projet de loi de Vaquet en 86, etc. Il faudra voir ce que sont devenus les manifestants du du 21 avril au soir. Donc il y a des effets comme ça de socialisation, hein, ça, je reviens à ce que je disais tout au début. Et puis il y a des effets d'entraînement, c'est-à-dire que le succès, même s'il est relatif ou partiel d'un mouvement, va donner des indices que le pouvoir est potentiellement affaibli et va inciter d'autres à leur tour faire valoir leurs intérêts. Donc il y a des effets, et c'est comme ça qu'on peut comprendre les vagues de contestation.
Alors voilà, l'émission se termine. On recevait donc aujourd'hui Lilian Mathieu avec pour son livre « Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux » aux éditions textuelles. Ça coûte 19 € et c'est sorti il y a quelques semaines maintenant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de revenir longuement avec nous sur cet ouvrage. Aujourd'hui, pour réaliser cette émission, c'était presque un mouvement social, tellement on était nombreux. Il y avait donc Jérémy, Juliette, Cédric, Guillaume, et puis Pierre et Alexandrine, je crois que j'ai dit.